Voilà, c'est juste un essai et c'est très beau. Partenariat avec le Théâtre 13, puisque nous nous rencontrons autour d'une pièce de théâtre qui est jouée depuis le 12 novembre et jusqu'au 12 décembre au Théâtre 13,
22.
côté 22
Jusqu'au
décembre?
22 décembre.
22 décembre, pardon. Au Théâtre 13, côté jardin, donc c'est à Glacière. Donc il s'agit d'une pièce du dramaturge serbe Branislav Nusić, dont le titre en français est traduit mot à mot par La famille endeuillée, et que la troupe que vous rencontrez ce soir a choisi de traduire par Les déshéritiers. Ils nous expliqueront pourquoi. Donc je vous présente les intervenants de ce soir. J'espère que les cartons sont bien. Ouais, d'accord. Donc en premier, juste à ma gauche, Ned Grujic, qui est metteur en scène de la pièce. En 1993, il fonde sa compagnie Les Tréteaux de la Pleine Lune et il met en scène des auteurs classiques comme Shakespeare, Rostand, Beaumarchais. En 2008, il adapte pour le théâtre Sa Majesté des Mouches de William Golding, une première en France. À sa gauche, Sacha Petrojinevic, traducteur de la pièce, et lui est avant tout comédien. À partir de 2001, date de son arrivée en France, il joue aussi bien au théâtre qu'au cinéma. Donc au cinéma, Sur ta joue ennemie de Jean-Xavier de l'Estrade en 2008, Le premier homme de Gianni Amelio en 2012 et Mea culpa de Fred Cavaillé, qui est prévu de, enfin, dont la sortie est prévue à la fin de cette année. Donc Ned et Sacha représentent ce soir la troupe qui a monté le projet. Et à leur gauche, deux traductrices. Donc premièrement, Karine Samardjia. Ouais, voilà, je m'en doutais que j'allais faire une erreur.
Non, c'est bien.
Donc Karine a fait un cursus à l'INALCO. Elle fonde avec Monika Projinevic et Sarah Siller le site web de traduction expérimentale retors.net. Elle est actuellement en résidence à la Maison d'Europe et d'Orient, pour laquelle elle traduit Patriotique Hypermarket, une pièce coécrite en 2011 par la Serbe Milena Bogavac et le Kosovar Jeton Nezirac. Et enfin, à sa gauche, Sara Perin-Saric, qui a aussi suivi un cursus universitaire, elle un double cursus théâtre et civilisation à la Sorbonne Nouvelle et à l'INALCO. Et elle a également créé le théâtre, le festival de théâtre francophone, le FETEF, en Bosnie-Herzégovine. Donc, dans un premier temps, cette soirée, nous allons assister à des lectures, et c'est dans un second temps que le dialogue sur la traduction de la pièce va s'établir entre les représentants de la troupe et les traductrices. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée.
Alors, place au traducteur, peut-être, Sacha?
Oui.
Parler un petit peu, peut-être,
Eh bien,
introduire quand même le sujet.
oui, voilà, il faut introduire. Branislav Nusić est un des plus connus et des plus joués auteurs dramatiques de la Serbie actuelle, mais aussi des pays qui entourent la Serbie, puisque la langue est plus ou moins la même. Enfin, la langue serbo-croate, on peut l'appeler serbo-croate. Enfin, on se comprend très bien entre les Serbes et les Croates. Il n'y a aucun problème. Donc, il se joue depuis la création de ces pièces, c'est-à-dire début du XXe siècle. Il se joue régulièrement dans les théâtres, un peu partout. Il est fondateur de théâtre à Sarajevo. Il était directeur du théâtre national à Belgrade. Il a fondé aussi le théâtre à Bitola. Enfin, il a représenté aussi le royaume serbe en tant qu'ambassadeur un peu partout. Très, très doué, dramaturge fin et qui écrivait pour le public et pour les comédiens. Et donc, jamais vu ni joué en France, alors que dans d'autres pays, il est plus ou moins joué. Enfin, nous avons eu l'idée de présenter tout ça au Théâtre 13, à Colette Nucci, qui a accepté la proposition de faire ce texte, qui est un des derniers que cet auteur a écrit, qui correspond à peu près à il l'a commencé, puis il l'a fini, je pense, en 32 ou 33, quelque chose comme ça. Et ce texte est lié à une époque, disons, qui précédait la Deuxième Guerre mondiale. Donc voilà, Nusić se joue régulièrement dans les théâtres, aussi bien en Serbie qu'en Bosnie, en Bulgarie. Voilà, il est Par exemple, en Serbie, vous avez, sur les répertoires des théâtres serbes, vous avez toujours une pièce de Nušić. Tôt ou tard, dans une année de programmation, vous avez une pièce de Nušić. Donc ça parle énormément. Il y a ceux qui l'aiment, ceux qui ne l'aiment pas, ceux qui l'adorent, ceux qui le détestent. Mais c'est comme tout auteur connu et joué. Voilà. Donc nous avons eu cette idée de le présenter. Et puis nous avons présenté le texte « La famille endeuillée » au Žaloštino Porodica. En gros, il s'agit des membres d'une famille qui arrivent dans une maison du défunt et qui viennent tous pour essayer de toucher le maximum d'héritage. En gros, voilà. Ça, c'est un peu le pitch, vraiment, en gros traits. Les petits traits sont beaucoup plus intéressants puisqu'il s'agit de plein de personnages complètement différents qui viennent tous ensemble, qui paraissent être tous ensemble, mais finalement, au fil des actes, au fil des scènes, Ils se défont les uns les autres et puis on voit un peu le caractère, l'humain universel apparaître et surtout l'appât du gain, la malhonnêteté et plein d'autres choses. Donc voilà, la pièce est une comédie, mais une comédie comme on dit, enfin la critique actuelle, enfin la critique française, la définit comme une comédie cinglante, grinçante, voilà. On peut la considérer comme telle, évidemment. Après, notre idée, c'était de le partager avec le public et surtout de l'offrir pleinement au public sans perdre de cette authenticité de l'auteur qui est Branislav Nušić. Voilà, en gros, le...
L'intérêt aussi, c'est que c'est en fait vraiment un auteur qui est écrit entre, le théâtre bourgeois et la comédie de mœurs. Donc souvent on dit que souvent que c'était le Fedo serbe. Bon, je suis pas persuadé. Moi, je dirais c'est peut-être un peu aussi le ça pourrait être le Labiche et le Molière serbe aussi. C'est-à-dire vraiment la comédie de mœurs, c'est très importante et très mise en avant. C'est de la comédie noire et je pense que ça pourrait s'apparenter aussi un peu à tout le côté latin aussi des personnages, parce que moi je sais que ça me fait penser, en tout cas en tant que metteur en scène, j'ai été très attiré par le fait qu'on peut penser à Dino Risi, à Ettore Scola, ces personnages comme les monstres, Afresa les méchants aussi, c'est des personnages qui sont vraiment, qui vont jusqu'au bout, c'est-à-dire que Nušić pousse la satire et justement le côté grinçant jusqu'au bout. Donc ce qui fait qu'effectivement il a des admirateurs comme des détracteurs. Cette petite parenthèse.
Oui, et donc nous sommes mis d'accord, on va présenter peut-être un petit extrait.
Oui.
Voilà, il s'agit de... Enfin, je vais parler des personnages. Il y a, dans la version initiale du texte, il y a 13 personnages. Nous avons opté pour en garder 9. Non.
9.
9,
oui, ouais. C'est ça.
12, pardon, 12, et nous avons gardé 9 personnages. Nous avons coupé un personnage qui est la tante dans l'histoire, qui n'a qu'une seule scène et qui est tout à fait coupable, entre guillemets. Et puis aussi un couple d'héritiers, puisque le théâtre d'aujourd'hui n'est pas le théâtre d'autrefois et qu'autrefois on avait des ensembles qui pouvaient jouer comme ça à 15, 20, une pièce de théâtre. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Du coup, ça tombait bien pour nous. C'était une solution plus ou moins agréable. Donc, ça tombait bien. Alors, du coup, on a recoupé un couple d'héritiers. On a distribué les répliques. Et
on en a enlevé certaines.
On en a enlevé aussi, certaines.
C'était de raccourcir la pièce un petit peu.
Oui, voilà. C'est toujours le théâtre d'aujourd'hui et ce qu'il est. Et il faut aussi s'adapter et ne pas trop...
faire des pièces trop longues.
À l'ancienne, voilà. Voilà. Donc, nous allons vous présenter un extrait. C'est la 11e scène du deuxième acte. Ce qui s'est passé avant, c'est que les héritiers sont arrivés à la maison. Ils commencent à s'intéresser au défunt, ce qu'il a laissé en héritage, etc., etc. Et puis, on apprend que dans cette maison, la maison du défunt, vivent une jeune fille, Danica, et sa tante. Donc, on ne sait pas trop qui est sa tante, qui est cette jeune fille. La famille commence à soupçonner un peu leur présence, pourquoi elles sont là. Est-ce qu'elles vont toucher l'héritage aussi, etc., etc. Donc, la famille a décidé de s'installer illégalement dans la maison. Tous ces héritiers, finalement, ils ont décidé de s'installer dans la maison.
Donc chaque couple voilà. Prend une chambre. Voilà.
Donc, les voilà dans la maison. Et à un moment donné, dans cette histoire d'héritage, comme dans toutes les histoires, il y a un avocat qui est chargé de ce dossier. Et cet avocat vient, le dramaturge s'est débrouillé de le faire venir vraiment dans les moments clés pour aussi mener le spectateur vers un dénouement que propose Nouchitch, un peu comique et aussi qui fera mal aux héritiers, entre guillemets. En tout cas, dans la 11e scène de l'acte 2, l'avocat débarque dans la maison et il a une scène en tête à tête avec le chef de la meute.
Le chef autoproclamé.
Voilà, le chef autoproclamé.
Un sous-préfet à la retraite qui bien sûr, dit que c'est lui le plus proche. Tout le monde dit ça, forcément. Et donc, il s'autoproclame chef de la famille. Et il va donc prendre sur lui de pousser l'avocat à essayer de révéler, avant le moment de l'ouverture du testament, qui sont les héritiers et qui a droit à quoi.
Donc voilà, pour vous mettre un peu au goût de cette pièce et de ce qui se raconte, nous allons vous présenter cette scène, cet extrait, et puis après on va développer.
Il y a l'exigence du défunt qui est d'attendre 40 jours.
Oui, voilà, il y a dans le procès verbal de la cour, quand on a décidé de sceller le testament, etc., évidemment, il est dit, selon les traditions et aussi selon les souhaits du défunt, 40 jours après sa mort, le testament sera ouvert. Donc il faut attendre 40 jours après la mort pour connaître le contenu du testament. Voilà. Les héritiers, évidemment, se bagarrent pour le connaître avant, pour savoir ce qu'il y a dedans, et cet avocat va décider subitement de l'ouverture prématurée. Donc voilà. Voilà.
Et donc ce fameux Agathon, ce fameux sous-préfet à la retraite, évidemment fortement retors et enrobe énormément les choses. Donc ce qui est peut-être intéressant, c'est de présenter deux extraits différents. Un où effectivement il se retrouve avec l'avocat, où il a un premier rapport, où il est lui un petit peu en dessous et c'est l'avocat qui dirige la scène. Et puis la deuxième, l'avocat va lui faire une proposition. Et donc la scène suivante, c'est une scène où ce fameux Agathon réunit tous les imposteurs, enfin tous les cousins qui se sont installés dans la maison pour leur annoncer ce que l'avocat a demandé. Simplement, il va renverser la situation et dire que c'est lui, Agathon, qui a poussé l'avocat à faire cette proposition. Donc, c'est intéressant de voir justement les deux couleurs et le côté retors de ces personnages.
C'est un peu le
personnage retors suprême.
L'esprit de Nouchitch et surtout sa manière d'écrire pour les comédiens et surtout pour le public et surtout au service de la comédie, évidemment, bien saine et populaire, entre guillemets.
Donc c'est moi qui commence, alors je vais lire à Agathon, ce n'est pas moi qui l'interprète normalement. Justement, j'avais hâte de vous retrouver seul, j'ai quelque chose d'important à vous dire.
Ah, bah, tant mieux, moi aussi j'ai quelque chose d'important à vous dire.
Ah, ça me fait plaisir. Nous deux, nous devrions parler de tout parce qu'il n'y a que vous et moi qui sommes, comme on dit, hommes de loi.
Vous êtes donc un homme de loi?
Bah, bien sûr, j'ai été 27 ans sous-préfet.
Ah, très bien, vous allez pouvoir me fournir un renseignement précieux.
Oh, bah je vous en prie, avec plaisir.
Avez-vous, en tant que sous-préfet, sanctionné les cas où le bétail, par exemple bœuf, poulain, porc ou âne, pénètre dans le champ de quelqu'un?
Mais comment? Je sanctionnais le propriétaire du bétail et j'envoyais le propriétaire du champ dévasté battre à coups de bâton le bétail qui était entré dans son domaine.
Bon, ça c'est le bétail. Il ne comprend rien. Mais comment donc sanctionneriez-vous des gens, les êtres sensés, sachant lire et écrire, lorsqu'ils pénètrent dans le domaine d'autrui?
Ah bah j'appellerai immédiatement un sergent de police, je lui donnerai un gendarme en renfort et je lui dirai « Va là-bas et chasse-moi ces sauvages ».
Donc, c'est ce que je devrais faire?
Ah bah oui, je ne dis pas le contraire.
Eh bien, voyez-vous, je n'ai pas envie d'agir ainsi.
Absolument, il ne faut pas.
Je vais le faire autrement.
Je suis curieux de savoir comment.
Je vais aller au tribunal et exiger que le testament soit ouvert demain.
C'est possible?
Mais pourquoi pas?
Et les dernières volontés du défunt?
Ce ne sont que des volontés. D'ailleurs, le notaire lui-même avait prévu d'ouvrir le testament avant l'heure si le mandataire l'estimait urgent.
Et il y a quelque chose d'urgent?
Mais la famille a investi la maison illégalement. Qu'y a-t-il de plus urgent?
Absolument. En fait, le mieux, ce serait d'ouvrir le testament dès demain.
C'est ce que nous allons faire.
Et alors, nous pouvons rester à la maison en attendant, n'est-ce pas?
Ce n'est pas correct, mais bon, un jour...
Mais oui, c'est difficile d'emménager et puis de déménager en un seul jour. Hein. Et puis, à vrai dire, ce serait une honte devant le monde. Hein.
Bon, alors, restez jusqu'à demain.
Bon, je vais le faire, soyez-en sûrs.
Je vous en prie. Mais n'oubliez pas d'annoncer à la famille que le testament sera ouvert demain.
Oui, bah, bien sûr. Je voudrais vous demander quelque chose, si vous le permettez, juste comme ça, en passant.
Hein. Allez-y.
Je voudrais savoir de quoi j'hérite.
Vous attendez tous à un héritage ?
Eh bien, tous, évidemment. Et chacun croit être l'héritier principal.
Eh bien, pourquoi vous ne trouvez pas un accord ?
Ben comment ?
Ben, si tout le monde croit être l'héritier principal, c'est que vous avez tous les mêmes droits. Donc, vous pourriez gentiment, en tant que famille, partager les biens d'un commun accord et en toute amitié.
Ah ben, vous avez raison, ben, ce serait faisable.
Bien sûr, mais n'oubliez pas d'annoncer à la famille que le testament sera ouvert demain.
Ben, mais comment l'oublierai-je ? Seulement, je dois le dire à ma femme d'abord. Hein. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point elle est impatiente de savoir ce que nous nous sommes dit, vous et moi. Hein. Ma femme d'abord.
Oui, c'est ça.
Voilà, donc ça, c'est cette première scène.
Voilà, c'est la où finalement, on décide d'ouvrir le testament le lendemain de cette histoire, puisqu'il y a eu irruption, envahissement de la maison, etc. Donc, on fait la...
Mais on va faire le tout départ pour voir justement comment ce personnage d'Agathon... joue vraiment de la rhétorique pour arriver à embobiner, je dirais, ses cousins, entre guillemets, on va dire. Ça, on en reparlera aussi de l'étymologie de ce terme-là, voilà, par rapport justement à la Serbie, la France et la différence qu'il y a.
Ce que nous allons développer.
Voilà. Les frères et sœurs, on va dire, mais voilà, sont-ce les frères et sœurs. Bien, je vais commencer.
Je vais faire qu'un seul personnage.
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce qu'il y a, Agathon ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Bon, alors asseyez-vous et je vais tout vous raconter dans l'ordre.
Bon,
hein.
Mais vous avez discuté ?
Nous avons discuté, bien évidemment, et je ne l'ai pas fait comme jusqu'à présent indirectement. Hein. J'ai dit, tu connais les lois fiston, moi aussi, alors débattons. Et là, je lui ai envoyé sur le champ, au nom de toute la famille, j'exige l'ouverture du testament.
Et lui ?
Bah, quand il a vu que j'ai durci le ton, il s'est mis à esquiver... Et les dernières volontés du défunt, les 40 jours, et ceci et cela... Mais moi, je lui ai répondu... D'après la loi, je ne suis pas obligé d'attendre 40 jours, et je ne veux pas attendre. Voilà comment je lui ai parlé.
Et lui ?
Mais il a recommencé à esquiver. Et l'article 72e, et le 56e, et moi, et le 147e, et le 147e, monsieur, là, hein, et là, d'un coup, il est devenu blême, tout troublé.
Et alors ?
Ben, il a compris qu'il était inutile d'esquiver, et alors il a accepté.
Mais quoi ?
Il a accepté que le testament soit ouvert.
Oh !
Eh oui, hein, qu'on l'ouvre.
Mais quand ?
Mais là aussi, il s'est mis à esquiver. Eh bien, monsieur Agathon, ça se pourrait un de ces jours Non, j'ai répondu. J'exige que ce soit fait demain.
Demain ?
Bien sûr.
Oh, est-ce qu'il a accepté ?
Eh bien, je l'ai mis dos au mur, hein, et il a vu qu'il n'y avait pas de sortie de secours, alors il a accepté.
Mais demain ?
Ben demain, bien sûr. Voilà, hein, comme je discute avec les avocats.
Mais, parce que tu as si bien coincé cet avocat, tu n'as pas pu le questionner sur la chose, Agathon.
Mais quelle chose ?
Eh bien, la chose, ce qui est écrit dans le testament.
Ben, je l'ai interrogé à ce sujet aussi. Hein.
Et alors ?
Ben, oui, je l'ai interrogé.
Mais parle, mon frère.
Il a beau être 100 fois avocat, et il ne peut pas échapper à un investigateur rusé.
Mais parle, enfin, je t'en conjure.
Donc je lui ai dit, c'est vous qui avez écrit le testament, donc son contenu vous est familier.
Mais bien, est-ce qu'il a répondu quelque chose ?
Ben, je peux pas dire que j'ai eu une réponse, mais j'ai réussi à lui arracher un mot.
Mais est-ce qu'il a dit ce mot ?
Ben, il l'a dit, bien sûr.
Mais qu'est-ce qu'il a dit, pour l'amour de Dieu ?
Il ne l'a pas dit ouvertement, mais de façon enveloppée. Mais moi, j'ai tout de suite compris que le testament laisse à la famille le soin de partager les biens selon un accord à l'amiable.
Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ?
Eh bien, mettons-nous d'accord, puisque nous sommes tous réunis, ouvrons un débat.
Et évidemment, c'est toi qui présiderais le débat.
Non. Pourquoi moi, c'est pas obligatoire ? Voici Trifoun, voilà, il connaît mieux ces choses-là, voilà, il va présider.
Non, toi, Agathon, toi.
Mais non, mais pourquoi moi ? Mais non, mais voici Trifoun.
Allez, sois pas soupe au lait, tu t'y connais mieux, je te l'accorde, tu t'y connais mieux.
Bon, bah, puisque je m'y connais mieux, tais-toi. Voilà. Donc demain, quand le juge lira, « Je laisse tous mes biens à ma famille qui les partagera selon un accord commun », nous devrons immédiatement répondre « C'est fait, nous nous sommes concertés ».
C'est ça, absolument, c'est ça.
Voilà. Vous voyez, donc ce qu'il nous reste à faire.
Et qu'est-ce qu'il faut faire ?
Eh bien, voici comment. D'abord, divisons-nous calmement. D'un côté, les cousins proches, et de l'autre, les cousins éloignés.
Mais nous sommes tous des cousins proches ?
Non. Tiens, toi, la première... Tu n'es pas sa proche cousine.
Et pourquoi je ne suis pas ?
Parce que tu ne l'es pas.
Et toi, tu es son cousin proche ?
Pas proche, évidemment.
Eh bien, moi, c'est pareil.
Eh ben non, c'est pas pareil, Sarka. Tu n'es pas une cousine proche, non, Proca non plus.
Quoi ?
Bah, oui.
Bon, c'est du côté. Voilà.
Parce que là, après,
c'est...
la dispute va commencer à monter, puisque chacun est, soi-disant, le cousin proche ou la cousine proche.
Chose.
Sacha a fait beaucoup de personnages.
J'ai fait beaucoup de personnages. Que...
Il n'y a pas toutes les cordes vocales qu'il faut, mais.
J'avais des femmes, des hommes, tout ça. Donc voilà, ces deux extraits sont à peu près, voilà. Il y en a plein d'autres, mais nous avons choisi ces deux-là.
Voilà. Bon, après, c'est vrai que c'est une pièce qui est très chorale également. Et c'est aussi la force de la pièce. Hein. C'est que, et la difficulté aussi pour la montée, justement, et que ce soit dans l'échange du dialogue, dans la rythmique, parce que c'est une pièce qui doit être très soutenue au niveau du rythme, avec des personnages qui sont très contrastés. Et donc, tout le travail entre... des rapports entre les uns et les autres, se connaissent-ils, se sont-ils, n'ont-ils fait que se croiser, en fait, on a presque des querelles de clochers, finalement. On se retrouve dans cette maison, c'est un huis clos, et à la fois, on a l'impression d'être dans un village, quoi. Donc, voilà, c'est la force de ce texte-là, en tout cas. Mmh.
Après, la pièce joue beaucoup aussi sur le... justement, vous en parliez tout à l'heure, le mot « cousin ».
Oui.
Qui est, dans les Balkans, en ex-Yougoslavie, le terme cousin ne s'emploie pas du tout de la même façon qu'en France. Absolument. Et ça joue vraiment sur ce jeu-là, le côté c'est mon cousin que je ne connais pas, on peut ne pas connaître ou avoir des liens. Et en fait, la pièce joue vraiment sur ce... c'est quelque chose qui est vraiment très culturel.
Complètement,
et
très, oui.
Et typique de la Serbie. Oui. Justement.
Oui, c'est aussi une accroche, effectivement. C'est vrai que ce
terme-là... Parce qu'ils se parlent comme s'ils se connaissaient, mais finalement, ils ne se connaissent pas du tout. Il n'y a aucun des personnages dans cette maison qui se connaît.
Ce fameux cousinage, c'est un prétexte, évidemment, pour...
Et c'est typiquement c'est lié à... balkanique, on va dire.
Oui, c'est ça, c'est espèce de... C'est vrai que ce sont des termes qui sont employés pour donner une espèce de lien évident, une complicité immédiate, même quand on ne se connaît pas aussi. Il y a cette manière aussi d'employer justement ces mots-là, en fait.
Et la comédie, qui est une comédie de situation, joue là-dessus,
Parce que ça intervient, effectivement, en plus, ça intervient à des moments précis. Quand tout d'un coup la tension monte, il y en a un qui essaie de désamorcer en employant ce mot, mes cousins, etc. Même mes frères, mes sœurs.
Mes frères et mes sœurs, ils disent souvent.
Qui sont en fait les cousins pour nous en France.
Mais très éloignés. Qui sont des cousins très éloignés en France. Pour peut-être commencer à parler de votre travail de traduction et du rapport à la scène, au travail scénique. On peut déjà commencer par le titre, c'est Ojalošćena porodica. La famille endeuillée.
Tout à fait.
Et vous avez changé le titre par les déshéritiers. Et je vais mêler cette question et cette ouverture aussi au fait que vous avez signé traduction et adaptation. Et je voulais savoir en quoi, pour vous, c'est une adaptation.
L'adaptation est vraiment très subtile, entre guillemets, puisqu'il n'y a pas eu un gros travail d'adaptation. Il y a eu juste une sorte de... On a aménagé un peu le texte, coupé, donc adapté pour la version qu'on joue au Théâtre 13. Et puis, évidemment, distribuer ses répliques et couper trois personnages pour nos besoins. Et aussi, on a adapté quelques dialogues en redistribuant les répliques, en les recroisant autrement, puisque c'est une comédie chorale et que, voilà, c'est selon, évidemment, l'inspiration et l'envie du metteur en scène de mener la troupe vers un but précis, évidemment, après tout est permis. Alors du coup, on a touché à tout ça. Le plaisir, c'est qu'on avait devant nous un texte traduit, plus ou moins, et puis qu'on pouvait toucher à tout moment à tout et n'importe quoi. Donc on s'est permis plein de choses. Et puis à un moment donné, j'ai remarqué, et c'est très important, je pense, dans le travail de théâtre, quand on les mettait en scène, etc., naît des revenus vers le texte, mais vraiment. Et du coup, il a repris les comédiens, parce que les comédiens ont ce tic qui est parfois insupportable et puis qui les dessert, d'adapter le texte et puis de paraphraser facilement, de le dire à leur manière. Et puis ça commence et puis ça n'a pas de fin, en fait. Et c'est quelque chose où, enfin, on peut se perdre quand on est comédien. Si on fait ça, on peut se perdre vers une sorte d'improvisation totalement imprécise.
C'est un peu malin quand on ne sait pas très bien son texte.
Oui, voilà, il y a ça.
Oui, c'est ça aussi.
Ce qui est très intéressant, c'est qu'on avait devant nous une matière tout à fait nouvelle, entre guillemets, qu'on pouvait à tout moment modifier, dire oui, on fait ça, on le fait pas, etc. Et puis à un moment donné, Ned a vraiment repris, vraiment fait le metteur en scène, c'est-à-dire il a repris les comédiens sur des petites phrases, mais vraiment sur les petits mots. Ce qui fait que
on s'est quand même basé sur un support assez précis. Et ça a été très agréable de voir à quel point un texte est vraiment la base de
ah ben c'est la base, c'est la respiration, les mots, voilà. La manière. C'est vrai que c'était intéressant parce que on a évidemment en travaillant les personnages, en travaillant les situations, les scènes, effectivement, l'acteur a tendance à partir un petit peu, à s'arranger d'une certaine manière, à mettre des petites scories. Tout d'un coup, c'est-à-dire perd parfois un peu confiance dans l'écriture en se disant oui, mais là, c'est écrit, etc. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, même, je dirais, pour des pièces traduites, c'est toujours très difficile d'arriver à les ajuster, parce que c'est l'intérêt aussi, dès qu'on est sur scène, une traduction, est, comme d'ailleurs l'écriture d'une pièce. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle prend vie vraiment à l'épreuve de la scène, à l'épreuve du plateau, comme on dirait dans le jargon théâtral, c'est-à-dire lors des répétitions, même lors des premières représentations parfois. C'est-à-dire on ajuste les choses. Effectivement, de temps en temps, on revient au texte original. Et puis parfois, on est obligé, parce qu'évidemment, les langues sont différentes, donc les formulations sont parfois différentes. Et parfois, pour un effet comique, qui par exemple dans l'écriture originale de Nušić tient parfois sur des répétitions ou des phrases, des longues phrases, parfois en français l'effet ne marche plus du tout, c'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir une phrase plus courte et qui va à l'essentiel pour obtenir l'effet comique. Et ça d'ailleurs c'est quelque chose que l'on remarque beaucoup depuis qu'on a commencé les représentations, c'est-à-dire qu'on ajuste un petit peu de temps en temps pendant les représentations, puisque
vous ajustez quand même
un petit peu de temps en temps, oui. On voit que parfois quelques répliques.
En gros, vous avez toujours eu durant votre travail de répétition et même depuis le début des représentations, vous gardez le texte original quand même, la version.
Oui. On y revient tout le temps.
On s'est mis d'accord parce qu'on a eu quelques doutes.
On y revient tout le temps.
Déjà, le texte à l'origine, le texte de Nušić, la langue. Quand on parle serbe, quand on joue même en serbe, moi je l'ai joué, j'ai eu la chance de jouer en serbe aussi, nous je suis en serbe, quand vous êtes comédien, vous avez aussi cette rencontre, il y a une différence légère, c'est-à-dire le langage n'est pas le même, la langue n'est pas la même, donc elle est un peu datée et typée, c'est-à-dire on entend très bien un monologue de Nušić, on se dit tiens ça c'est de Nušić, non pas parce qu'on le joue de telle manière, mais parce que le langage est un peu différent d'aujourd'hui, donc il fallait trouver cependant, en essayant de respecter vraiment l'auteur, puisque c'est la base même de notre travail. Et du coup, on a eu quelques difficultés, puisque, évidemment, à un moment donné, on ne peut pas traduire tout simplement. Donc, il faut traduire avec beaucoup de difficultés. Oui. Et on s'est posé plein de questions. Et c'est souvent sur les équivalences des verbes, par exemple. Moi, c'est quelque chose que je tiens beaucoup à la signification d'un verbe. Et puis, surtout dans le temps, le verbe qui traverse le temps, le verbe de l'époque de Nušić qu'on va utiliser dans ce texte-là, ne signifie pas la même chose aujourd'hui en serbe. De la même manière, on ne peut pas utiliser un verbe vieilli français pour signifier une certaine action. Et donc, c'était ça. Nous, on a eu quelques difficultés, et notamment moi, en traduisant, mais en plus, en jouant, on se disait, mais oui. Il y a un problème là. Il y a un exemple, c'est l'exemple extraordinaire. En serbe, à un moment donné, le personnage de Simka dit... Lepio štosinas.
Donc Simka, c'est donc une veuve qui est donc qui visiblement a eu sans doute une espèce de
par
relation.
Exemple, la phrase même, je dis en serbe juste pour voilà vous, peu importe. Elle dit "Godno ti ovo agatun štosinas morod". C'est-à-dire c'est une construction un peu vieille d'une phrase où en gros elle dit à son mari, ça tombe bien que tu nous aies proclamé, fait, inventé, cousin. Et alors du coup, déjà en essayant de traduire la phrase, on balance trois verbes, proclamer, fait, inventer, etc. Et nous avons eu cette difficulté puisque nous l'avons joué, moi j'avais gardé, ça tombe bien que...
Je crois qu'on doit l'avoir là.
Tu nous aies inventé ces cousins.
Oui, tu as bien fait, Agathon, de nous inventer
ses
cousins.
Tu as bien fait de nous inventer ses cousins, puisque cette construction correspond à peu près à ce qu'elle dit en serbe. C'est-à-dire, on se dit, mais ça ne se dit pas, ce n'est pas possible. Tu as bien fait de nous inventer ses cousins. Et du coup, la comédienne, en jouant, comme quoi la nature s'impose. À chaque fois, la langue est une matière vivante. La comédienne, elle disait, mais je peux pas dire ça. Ça veut dire quoi de nous inventer? On a l'impression qu'il nous invente ses cousins, etc. Et oui. Du coup, on a changé. On était obligé de changer. Ça, c'est un exemple. C'est-à-dire ce...
Oui, parce que ça peut être un contresens, en fait, en français.
Voilà.
Aussi, c'est pour ça qu'on s'est dit que nous inventer ses cousins, en fait, de faire en sorte que...
C'est ça.
De faire croire que nous sommes ses cousins.
C'est ça. C'est ça.
C'est pas la même chose que de nous inventer ses cousins. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que cette personnage a inventé d'autres cousins. Voilà. Donc c'est vrai que c'est...
Voilà, ça, c'est un des exemples. Mais il y a eu... C'est-à-dire que c'est pas un langage extrêmement difficile à traduire quand on parle le serbe. Mais il y a quelques difficultés. Notamment, les personnages appartiennent à une sorte de petite bourgeoisie qui se sert... Il n'y a pas de pendant, puisque la bourgeoisie en Serbie n'est pas la bourgeoisie en France. C'est-à-dire que ce ne sont pas les mêmes relations, ni les mêmes origines. Ce sont les gens qui viennent, disons, deux, trois générations, qui sont des paysans. Du coup, ils ont plein de proverbes. Ils balancent plein de proverbes, parfois d'une manière très délicate, mais parfois d'une manière très grossière, entre guillemets. Et donc, la pièce commence par une sorte de... lamentation collective, enfin chorale,
oui.
Où les personnages balancent ces pseudo-semi-proverbes en serbe. Et voilà, ils se lamentent comme ça, d'une manière chorale. Et puis, il y en a un qui dit « Takvi se ljudi ne rađaju dva put ». Puis, il y en a un autre qui dit « Davo je i kapo mi šakom », par exemple. Ça, « Davo je i kapo mi šakom », ça, c'est un truc... C'est un exemple de traduction où on est obligé de faire pas à pas comment le rendre authentique tout en gardant la langue française à peu près...
Et en gardant la rythmique correct, aussi.
En gardant la rythmique et la durée du souffle du personnage, puisque c'est un peu comme ça. Et du coup, on part... Ce que ça veut dire, d'avo e bomi kapo mi shakom, ça veut dire qu'il donnait kapa, c'est le bonnet ou le chapeau, shaka, c'est la main. Donc, en gros, le proverbe en serbe, ça veut dire qu'il donnait comme ça. Et de son, donc, c'était totalement intraduisible, donc il fallait trouver quelque chose. Et évidemment, nous avons... Enfin, j'ai opté pour il donnait sans compter, ce qui est à peu près la chose la plus proche de ce proverbe serbe, donner sans compter, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça, il y a un exemple comme ça. Il y a aussi l'exemple de je vais trouver, puisque c'est ce n'est que des petits Pomo gorbome ilevo i desno. Du verbe aider, pomoci, ce qui veut dire aider, secourir, ilevo i desno. En serbe, c'est, si on traduit ce proverbe, puisque ça se dit, c'est aider à gauche et à droite. Mais si vous dites ça en français, ça ne passe pas du tout. C'est-à-dire, on peut garder cette construction, mais ça ne veut pas dire, et puis ça n'a pas un lien avec un truc de proverbe de ce genre. Et du coup, moi j'ai opté pour il a aidé par Mons et par Vaux, ce qui fait que bon, on reste dans une
expression, voilà.
Voilà. Donc ce sont des pseudo-métaphores comme ça dans ces premières répliques qui étaient plus ou moins difficiles à trouver, parce qu'il fallait à un moment donné s'arrêter sur un choix et se dire je vais dans cette traduction, dans cette direction-là. Voilà. Donc ça, ce sont un peu des choses qu'on peut trouver, notamment dans le théâtre de Nušić, souvent chez les personnages. On trouve ces choses-là et puis on se dit... Là, on est obligé d'aller chercher, de biaiser, de trouver les pendants et non pas forcément respecter le... Vraiment, parfois, même... Moi, j'accorde beaucoup, beaucoup d'importance, moi, en étant comédien, au souffle du personnage tel qu'il est proposé par l'auteur. C'est-à-dire, l'auteur propose un certain souffle, c'est-à-dire une prise de parole, une présence vocale d'un personnage, et c'est... en quelque sorte, comme une sorte de canevas pour le comédien, c'est-à-dire il va se baser sur cette longueur-là de présence vocale pour s'exprimer, réagir, être présent ou être absent, etc., etc. Et je me suis dit que La ligne directrice pour moi, c'est vraiment cette prise de parole et surtout cette durée du souffle. Et du coup, j'ai essayé de respecter ce souffle-là. Voilà. C'est quelque chose qui me paraît vraiment très important. Sinon, c'est très, très compliqué. Après, vous tombez sur des traductions qui trahissent trop la version initiale. Évidemment, tout est permis et tout est possible. Je ne pense pas qu'il y ait de règles. Après, il s'agit de juger véridique ou juste une traduction ou de la refuser, entre guillemets. Mais après, c'est des goûts et des couleurs, évidemment. Donc voilà, moi c'était ça, et du coup je me suis arrêté plusieurs fois comme ça sur des répliques qui sont un peu des répliques qui sortent d'un seul coup, c'est un souffle qui sort comme ça et qui doit durer un certain temps et qui doit exprimer un certain état, une réponse ou un faux état, voilà, c'était on veillait à ce que ce respect là entre guillemets. Après, évidemment, il y a plein d'autres exemples.
Et peut-être on peut parler du titre, justement.
Oui.
Parce que c'est vrai que ça, c'est aussi...
Le titre, moi, je le dis, non pas pour être humble, mais c'est... Moi, j'étais contre le fait de devoir changer le titre, puisque je suis un peu comme ça, rebelle, sans savoir pourquoi.
Puriste.
Je pense que vous aviez raison, vraiment, de changer le titre, puisque les déshéritiers, non seulement que... Le mot, enfin, on peut dire que le mot n'existe pas en français, mais en plus, le mot est beaucoup plus, enfin, le titre est beaucoup plus parlant pour un public français que la famille endeuillée.
Oui, c'est vrai qu'on a été, en fait.
Là, j'ai très peu de mérite. Ouais.
Mais titre. C'est-à-dire que ça a été quand même un débat, parce que c'est vrai qu'on hésite toujours entre le purisme et puis l'adaptation, je dirais. C'est vrai que quand on a proposé la pièce, ça a démarré en fait par une lecture au Théâtre 13. Et c'est vrai que la pièce en elle-même, disons que le Théâtre 13 avait accueilli une pièce de Nicolai Erdmann qui s'appelle Le Suicidé. Et c'est une comédie. C'est une superbe pièce. Et c'est vrai qu'au départ, ça posait parfois... un problème au niveau du public, c'est-à-dire que les gens se disaient, oh là, je ne vais pas aller voir Le Suicidé, ça ne donne pas envie d'y aller, et ça ne sonne pas comme une comédie. Et donc c'est vrai qu'on a beaucoup réfléchi là-dessus, et autant, je dirais, voilà, dans les pays de l'Est, la notion de la famille endeuillée, il peut y avoir, en plus au regard de l'œuvre de Nouchitch, on peut sentir que déjà dans le titre, il y a une satire qui est là, autant si vous donnez un titre comme ça en France, La famille endeuillée, c'est très difficile de sentir vraiment... voilà. Ou alors il aurait fallu mettre un sous-titre. Et alors là, on commence à présenter des titres à rallonge. Et je dirais qu'au niveau de la communication du titre, c'est un peu compliqué. Donc c'est vrai qu'on a énormément cherché. Et puis pour essayer de dire quelque chose dans ce titre... pour que ça parle à des spectateurs en France, je me suis dit que c'était peut-être intéressant d'essayer d'avoir un titre qui soit un néologisme, un jeu de mots, quelque chose qui donne à la fois le thème de la pièce et qui donne aussi le mouvement de la pièce. Donc au départ, je m'étais dit, bon, les déshérités, oui, c'est vrai qu'ils sont déshérités, mais on l'annonce déjà. Et puis au fur et à mesure... comme ils se proclament héritiers, et puis qu'ils vont apprendre qu'ils ne le sont pas, ou très peu. Ça m'a paru intéressant de créer ce titre, Les déshéritiers, qui sonne comme un titre qu'on connaît depuis des lustres, des siècles. Donc c'était assez amusant. Et en fait, on a quand même, effectivement, j'ai fait tourner le titre un peu partout. J'ai vraiment proposé aux gens, j'ai annoncé le titre. Il y a eu un vrai sondage et j'en ai également parlé à des amis proches qui sont notaires, voilà, qui connaissent bien ce genre de situation. Et je ne leur ai rien dit, j'aurais dit, si je vous proposais d'aller voir une pièce qui s'appelle Les déshéritiers, et ça leur a tout de suite parlé. Donc je me suis dit, c'est intéressant justement de pouvoir annoncer la pièce de cette manière. Voilà. Et on est parti vraiment comme ça, avec ce titre en tête. Et voilà la raison pour laquelle La famille endeuillée chez nous, en France, devient Les déshéritiers.
Moi, moi, je voulais rebondir toujours sur, en restant sur l'adaptation, l'idée d'adaptation, parce que la pièce, en la lisant en serbe, j'ai vu qu'elle était très... elle fait vraiment référence à la mentalité serbe, la manière de vivre du pays, l'humour du pays. Oui. Et c'est quelque chose qui est très, très parlant quand on connaît la région. Et c'est pour ça aussi que j'étais curieuse de découvrir la traduction pour voir en quoi ça pourrait être parlant pour un public français qui ne connaît pas du tout la Serbie. Et vous, quel a été votre point de vue ? Est-ce que dans votre mise en scène et dans la traduction, vous avez gardé toutes ces références au rite orthodoxe, par exemple ?
On a gardé vraiment un gros maximum de choses. Il y a énormément de...
Comme c'est, on parle d'un deuil et de la mort de quelqu'un, il y a tous les rites autour du...
Bien sûr, on a gardé ça, puisque... Alors après, on l'a gardé parce qu'on s'est... D'abord, on s'est mis d'accord de faire... cette forme-là, mais aussi dans la traduction et surtout dans le texte proposé à Ned, il n'y a pas eu beaucoup de choses à modifier. Il ne s'agissait pas du tout de franciser les rites, puisque là, on se perd totalement. Je pense qu'il faut proposer aussi une certaine forme d'exotisme, entre guillemets, c'est-à-dire tout ce que le public ne connaît pas. C'est toujours bien de voir quelque chose, même si les gens ne comprennent pas forcément pourquoi ils mangent du blé. Oui. Ça, c'est le fameux truc, parce qu'il y a tout un passage. C'est un peu les rites orthodoxes, etc. Ça ne dure pas longtemps. Mais lui, moi, j'aime bien, on l'a gardé, puisque ça va dans la pièce. Et puis, pourquoi ne pas le proposer au public français ? Les gens vont... certains se poseront des questions. Qu'est-ce qu'ils mangent et pourquoi ils font ça ? Pourquoi ils... Mais et d'autres diront, voilà, ce sont des rites. J'ai pas eu beaucoup de comment dire. Je n'ai pas posé beaucoup de questions là-dessus.
Qu'on n'a pas, en fait, ce qui a été enlevé, c'est plus les références, effectivement, aux rites funéraires, c'est-à-dire après l'enterrement, les diverses semaines, trois semaines, etc. Enfin, il y a quelque chose de très complexe. Là, on ne s'est pas appesanti là-dessus. Et on a essayé as essayé d'enlever en tout cas le maximum de références, mais on reste quand même chez les orthodoxes. Il y a ce moment de blé qu'on sert, mais bon, en même temps, c'est vrai que les personnages se servent de blé, font le signe de croix, un regard au portrait du défunt qu'on devine dans le public. C'est quelque chose de très furtif, et je pense que sans trop développer, on peut. Je pense que le spectateur lui-même peut transposer. Ça peut raconter des choses aux gens. On a par exemple, on a laissé des noms de villages, de villages donnés, donnés à tel ou tel héritier. Tous les magasins de Terazije,
des parties de Champs-Élysées,
de Belgrade. On a laissé ça. Parce que je pense que très sincèrement, un spectateur français peut très bien se dire « ça correspond à telle personne. Le défunt a des boutiques à tel endroit. En France, ça pourrait être à Lyon, à Nice, à Paris. Enfin, je ne sais pas. Je pense que là n'était pas le souci. Mais en revanche, ne pas s'apesantir, ne pas alourdir, ça, c'était vraiment la chose importante. Et dans la mise en scène, c'est la même chose. C'est-à-dire que l'idée... Je voulais pas aller dans le folklore et dans ce que finalement on se dit c'est une pièce serbe, c'est une pièce de l'Est, ça va être du Kusturica, il y a des gens qui vont voler, il va y avoir des tziganes, etc. Les gens s'attendent parfois à ça aussi, ce qui est quelque chose de faux, puisqu'on est quand même chez les petits bourgeois, on arrive dans une maison, t'as un homme riche, c'est un riche commerçant, etc. Donc l'idée, c'est justement pour garder cette espèce d'universalité, plus travailler dans quelque chose de pur, ce qui n'est pas toujours mes parties pris de mise en scène. Moi, j'aime bien parfois quand c'est un peu baroque, etc. Mais là, j'avais vraiment envie que, qu'on ait pas trop de notions trop typées, trop folkloriques pour les gens. Alors, quand les gens arrivent au Théâtre 13, il y a de la musique, il y a des balades, des pays de l'Est. Comme ça, les gens sont un peu dans l'ambiance, on sert des choses à manger, des spécialités, etc. Ça met les gens en train. Mais une fois qu'on rentre dans la pièce, elle est assez, je pense que dans l'écriture, même si on l'adapte, même si on fait tout pour, par exemple, la franciser, de toute façon, la manière dont c'est écrit, la manière dont c'est construit, l'univers que ça développe est un univers très particulier. C'est-à-dire, ça reste un univers assez slave. Donc, je pense que c'est pas la peine, je dirais, de rajouter du jus de cerise sur la cerise, quoi. Enfin, si je prends cette espèce de métaphore un peu, mais voilà, je pense que c'est intéressant d'épurer les choses et puis pour livrer cette galerie de personnages finalement qui se débattent et livrer cette comédie de mœurs de la manière la plus pure, c'est-à-dire et j'espère qu'on rend hommage au théâtre de Nouchitch comme ça, c'est-à-dire un théâtre vraiment d'acteurs. C'est-à-dire que tout d'un coup, voilà, je me suis pas dit, tiens, je vais mettre plein d'images, je vais faire des choses super originales, voilà, je vais mettre de la marionnette, du trapèze, etc. Bon, j'extrapole un petit peu, mais voilà, l'idée, c'était vraiment, voilà, se retrouver. C'est une scénographie où il y a cinq portes, les fameuses cinq chambres, un pouf arrondi au milieu, qui est une espèce d'endroit qui peut représenter symboliquement l'espèce de camembert. Voilà, où chacun peut avoir sa part, qui est aussi l'endroit un peu de la concupiscence, où tout le monde se vautre dessus, s'approprie l'endroit. Et puis, en avant-scène, toute une galerie de couteaux, de couverts, de porcelaine, etc., qui sont peut-être voilà, les vestiges de cet héritage, en tout cas de ce patrimoine du défunt. Voilà, et que les acteurs puissent jouer dans cet espace et que les rapports entre les personnages, les rapports des corps dans l'espace entre les personnages, etc., soient vraiment mis en valeur. Donc, en ça, on peut dire qu'il y a une adaptation parce qu'on n'est pas parti dans un décor d'appartement, enfin de maison, voilà, à la serbe dans les années 30. On n'est pas parti sur une esthétique années 30 dans les costumes. Voilà, l'idée, c'était vraiment de faire quelque chose de plutôt d'atemporel qui puisse être reçu de manière immédiate. Alors, ça a double tranchant parce que parfois, les gens trouvent ça, voilà, sont complètement pris dans cet humour, dans tout ça. Puis parfois, il y a des gens qui peuvent dire aussi, oui, moi, je trouve que ça manque peut-être un peu de slavitude. Ou, voilà. Alors après, ce n'est pas forcément des Slaves qui m'ont dit ça, mais peut-être dans le fantasme d'un spectateur qui s'attendrait à voir, aller voir voilà, un film de Cousteau et de ça, que je rêvais, hein, et non, j'adore vraiment. Mais bon, voilà, l'idée, ce n'est pas ça, forcément. Mm-hmm. Donc, voilà, c'est vraiment de rendre hommage à l'acteur, puisque c'est ce que fait Nouchitch aussi.
Après, pour rester sur la traduction et sur le fait que Branislav Nouchitch, finalement, à part l'atelier de traduction serbe-croate-bosniaque de la Sorbonne,
oui.
Il n'existait pas d'autres traductions de Branislav Nouchitch.
Non, il n'a pas été touché.
Donc, ça veut dire, en gros, qu'un public francophone n'y a pas eu... Voilà, c'est ça. En tout cas...
Oui, c'est ça. C'est la première rencontre
vivante. On ne sait pas si au début du XXe siècle, ils ont eu accès, mais en tout cas, aujourd'hui, non. Donc, c'est la première fois qu'une pièce qui est un classique
en
ex-Yougoslavie apparaît à un public francophone du XXIe siècle.
Tout à fait, c'est ça.
Et moi, j'avoue, je traduis essentiellement du théâtre contemporain. Donc, je n'ai pas à me poser cette question de la langue. Comment rendre une langue
classique? Et encore, là, on est loin de la grosse difficulté qu'on peut avoir avec, par exemple, Joran Sterija Popovic.
Oui.
Avec vraiment un langage ancien, avec une langue qui est une langue qui a été modifiée aussi par les siècles passés et par les lois, puisque la langue est une matière vivante, évidemment. Donc, les difficultés étaient, disons, assez petites, quoi. Ce n'était pas quelque chose d'extrêmement difficile.
Oui, après, je ne parle pas des difficultés, mais je parle de... parce qu'après, bon, est-ce qu'un texte est difficile à
oui,
traduire
oui,
ou pas, ça regarde le traducteur.
Totalement.
Mais je veux dire, si on est dans l'idée d'un travail scénique... ma question, c'est justement, il y a une dans les pièces que je traduis en ce moment, il y a une pièce qui est un classique, qui est Isak Samokovlija. Donc c'est un auteur bosniaque du début du XXe siècle. Et vraiment, le questionnement que j'ai, c'est par rapport à la langue, c'est est-ce que je reste fidèle complètement à la langue d'origine et à l'archaïsme de certains termes, ou est-ce que au contraire, c'est pour ça que je parlais de l'adaptation et que j'insiste sur le terme adaptation. ou est-ce que au contraire je prends la liberté d'adapter en me disant de toute façon cette pièce doit être montée aujourd'hui au 21e siècle et aujourd'hui oui. on se permet d'adapter Shakespeare, oui. on adapte Tchekhov, on adapte enfin voilà oui, et donc enfin, voilà, c'était mon voir à peu près vous votre
Oui, enfin de toute façon c'était le but aussi c'était d'en faire une pièce qui puisse être qu'on puisse entendre aujourd'hui hein. De toute façon tu l'as enfin moi il me semble hein, je ne sais pas après ton parcours intérieur mais c'est vrai qu'on n'a pas de d'archaïsme dans le texte
oui,
qu'on
a monté.
Oui, mais
je sens quand même vraiment une forme classique, même oui, dans tout à fait, les tournures. Tout à fait. Il y a oui, vraiment oui. quelque chose de c'est, très, très classique.
C'est tout à fait oui. classique. Et puis, c'est un théâtre où on parle beaucoup. C'est, entre guillemets, un théâtre à l'ancienne. On parle beaucoup. Mmh. Et puis, les personnages ont tous quelque chose à dire. Et puis, ce sont des pièces qui durent 3 heures avec entr'acte, à l'ancienne, etc. Pour des théâtres avec de nombreux comédiens dans la distribution, tout ça faisait partie d'un paysage, d'une société d'entre-deux-guerres qui a évolué entre-temps, et surtout le théâtre en tant qu'art a évolué, et puis aujourd'hui on se rend compte que ce genre de pièces, évidemment, aussi bien le langage, la prise de parole, la durée, les scènes, on se rend compte qu'à l'époque on parlait beaucoup, entre guillemets, c'est bêtement, on parlait beaucoup, mais bon, c'est comme tu disais, c'est un théâtre. Il écrivait, il aimait les acteurs, il écrivait, il était directeur de théâtre, dramaturge, il écrivait pour les acteurs, il avait de très 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 bons acteurs dans ces théâtres, là où il travaillait, et du coup, en pensant un comédien, il façonnait les personnages de ses pièces. Donc c'était un peu sur mesure, entre guillemets, écrit sur mesure, surtout les pièces qui étaient vers la fin de sa vie, c'était écrit vraiment pour des vedettes du théâtre à Belgrade des années 30. Donc c'est pour ça que ce langage paraît classique et on peut le traiter d'un peu
mais
vieux,
en revanche, c'est vrai que la structure un peu classique du langage, même en français, en fait, elle est importante parce que c'est vrai qu'on a quand même des personnages qui sont quand même très souvent des personnages lettrés, mm-hmm. que ce soit Agathon, bon, qui est sous-préfet, etc., qui est un vrai rhétoricien, que ce soit le personnage de Mitcha, qui a quand même fait des études, alors on dit qu'il a gaspillé l'argent, etc., des études, mais il en a fait quand même. Enfin, ce sont des personnages qui ont quand même une manière de s'exprimer qui est quand même châtiée. Et c'est difficile, par exemple, comme l'idée n'était pas non plus de transposer, en fait, de transposer la pièce de nos jours, au 21e siècle, etc. Parce que, effectivement,
mais
là,
sans la transposer, on parle vraiment que de
oui,
la
du
langue,
langage. Je parle de la. Oui, langage, oui, je parle de oui, je parle. Du coup, je pense que c'est très intéressant justement le travail de la langue. D'avoir des formules aussi qui sont des formules, je dirais, plus classiques, plus polissées, la construction des phrases, etc., qu'elles soient vraiment, qu'elles fassent partie en fait de chaque personnage, que ça reste quand même une identité de langage, et de respecter ça en fait, malgré tout, même si voilà, les termes sont moins archaïques qu'ils ne le sont, je pense, chez Nusitch, mais c'est quand même de garder quand même cette espèce de Oui, c'est comme une arme de chacun des personnages. Donc voilà. En tout cas, c'était important de travailler sur ce langage-là aussi, mm-hmm. ne pas en faire quelque chose de complètement contemporain et dans une expression d'aujourd'hui.
On aurait pu, mais c'était pas le parti pris.
C'était pas le parti.
C'est toujours un choix, comme tu disais. Oui. Après, c'est le traducteur qui.
Mais je pense que c'est un questionnement. Enfin. J'avoue que je suis dans ce questionnement-là,
je comprends,
en tant que traductrice. Oui.
Mais je pense que tu dois avoir beaucoup de difficultés avec ce texte-là.
De la juive blonde, c'est oui. ça oui, bah oui,
c'est un travail énorme.
Ouais. Mais, oui.
Mais je pense que chez Shakespeare, c'est la même chose. On est tous, en fait, c'est-à-dire que... Bon, moi, j'ai pas mal monté de Shakespeare aussi. C'est vrai qu'avec les traducteurs, les adaptateurs avec lesquels j'ai travaillé, il y a toujours eu ce problème de se dire, est-ce qu'on garde cette forme, parce qu'une forme très... une forme très particulière, hein, avec les octosyllabes, etc., les moments en prose, les moments en vers, etc. Et comment on tient ces allégories, ces images poétiques, etc., associées à la trivialité. Est-ce qu'on garde cette forme effectivement un peu plus archaïque, est-ce qu'on casse tout et on remet un langage ou très jeune, parce qu'il y a des compagnies qui montent
après,
Shakespeare
faire,
à la manière.
On peut équilibrer aussi.
Voilà, et donc en fait, le souci est toujours, je pense, l'équilibre, en fait, c'est-à-dire respecter, parce que c'est quand même intéressant, je pense, de respecter, moi, je trouve, l'auteur dans son époque aussi, mm-hmm. parce que voilà, pourquoi son théâtre, le théâtre de ces gens-là perdure, c'est que on a quand même des choses dans lesquelles on se reconnaît aujourd'hui. C'est pour ça que ce sont des classiques. Alors, c'est important aussi, je pense, me semble-t-il, après, c'est des questions de point de vue, de garder quand même, je pense, cette essence-là. Mm-hmm. Sinon, ce serait écrit par un auteur d'aujourd'hui et c'est encore différent. Je pense que le langage n'est pas le même. En tout cas, je sais que c'est vrai que ce soit sur Nouchitch ou sur Shakespeare, c'est vrai que c'était important, à mon sens, de garder quand même cette patine. Malgré tout. Parce que sinon, je dirais que sinon, c'est aussi, entre guillemets, un petit peu facile. C'est-à-dire, on va faire dire à Shakespeare ou à des auteurs classiques des choses que peut-être eux auraient dites de cette manière aujourd'hui. On ne sait pas. Mais en même temps, ils ne l'ont pas dit.
Oui, mais alors là, on est dans une transformation totale. Après, je parle dans certains niveaux de langue. Chez Shakespeare, il y a des personnages qui sont clairement des personnages... populaire.
Oui, complètement.
Est-ce que ces personnages-là ne peuvent pas avoir un langage beaucoup plus contemporain et beaucoup plus...
Oui, oui. C'est vrai que c'est...
C'est curieux, cette histoire, parce que moi, en tant que comédien, j'ai plutôt tendance à être dans une démarche, et c'est ce... Bon, on a tous des parcours, des modes de fonctionnement. Bon, quand on est comédien, il vaut mieux ne pas en avoir, c'est-à-dire être là et puis s'adapter selon l'univers dans lequel on débarque. Mais le texte, c'est à la fois la chose la plus importante et aussi l'ennemi numéro un du comédien, puisque le texte n'est pas le sien. Donc, tout le travail du comédien, c'est d'en faire quelque chose d'authentique, c'est-à-dire de le dire en étant le sien, entre guillemets. Donc tout ça, c'est tout un travail très étrange. Et j'ai des amis qui sont un peu des puristes qui partent dans un principe, je sers l'auteur. C'est très important, je sers l'auteur, bien sûr, mais quand on est comédien, on ne sert personne, on incarne un personnage, on fait ce qu'on fait sur le plateau. Les autres servent ce qu'ils veulent. Et ce travail de traduction, c'était un travail totalement curieux pour moi, parce que je me suis dit, oui, je refuse cet esclavage au texte en disant, coûte que coûte, je sers l'auteur, c'est l'auteur avant tout. Et en même temps, je me suis dit, il y a quand même l'auteur. Et la base du théâtre moderne, même aujourd'hui, le théâtre tel qu'on le connaît aujourd'hui, on tombe vraiment dans l'art théâtral, c'est d'abord le texte, enfin le canevas, c'est comme il y a quelques siècles, et puis après on développe. Donc il faut toujours, et ça revient vers cette histoire d'adaptation, etc., il faut aussi qu'il y ait une sorte de ressemblance entre la traduction et le texte initial et la traduction. C'est ce que je me suis dit, moi. Et donc, je me suis dit, autant respecter l'auteur, Nouchitch, et ne pas trop le défigurer, puisque...
c'est le grand débat.
Bien sûr, non, mais... puisqu'on
le traduit...
Oui, après, c'est autre chose. Après, c'est autre chose. Mais ça reste très proche de ce qui se dit en serbe, dans un langage français tout à fait banal, simple... Enfin, pas trop...
banal, non.
Relativement oui. Simple compliqué là où il fallait le compliquer selon la version serbe.
Après, tout à l'heure, tu as parlé de... Bon, moi qui ne suis pas comédienne, je rebondis uniquement sur la question de traduction, mais tu as parlé de la longueur des phrases, du respect de la longueur des phrases. C'est quelque chose qui m'interpelle un peu, puisque on en discutait... J'ai pas du tout la même vision des choses. Il me semble pour moi que la grammaire serbo-croate permet, parce qu'il y a les déclinaisons, est beaucoup plus économe, donc les phrases sont longues. Et si on commence à traduire en respectant cette longueur, ça marche pas en français.
Oui.
C'est... ça ne marche pas, et la langue d'accueil ne fonctionne pas de la même manière. Donc, pour moi, je ne vois pas.
Non, c'est plutôt la prise, du souffle. C'est plutôt le souffle.
Oui, justement, pour redonner un souffle, ce qui correspond à la virgule en serbo-croate va être un point.
Oui, mais ça dépend. Après, ça dépend de l'auteur. Et puis, de toute façon, quand on est dans une démarche quand on fait du théâtre par rapport à un texte, évidemment, il ne s'agit pas de respecter les virgules, etc. On ne joue pas les virgules, on ne joue pas la ponctuation.
On l'a traduit la ponctuation.
Et oui, elle est plus ou moins. Elle a été vraiment respectée parce que ça s'y prête parfaitement bien.
Il y a certainement
rejoindre Karine, c'est vrai que pardon Sacha, je te coupe, mais ce qu'on a fait aussi, c'est que quand je parlais d'ajustement pendant les représentations, ça correspond à ça, c'est-à-dire parfois. Effectivement, de se dire, c'est une phrase longue, une phrase qui est en deux parties, etc. Quelle respiration tu mets au milieu de cette phrase? Et en fait, finalement, tu en fais une phrase en deux parties.
Complètement.
Avec un point, comme tu disais, etc.
Parce que la langue d'accueil ne permet pas.
Exactement. Et que pour arriver à l'effet, si ça met longtemps pour arriver à l'effet, ça tombe, quoi. Donc,
le point dans une réplique, parfois, peut justement donner un rythme très saccadé, tout comme la virgule en serbo-croate, puisqu'il y a ce système de déclinaison qui permet d'aller à l'infini. Donc, la lecture sera très rythmée. En français, toutes ces virgules vont nous noyer, alors que le point va donner un rythme assez égal.
Met ce qu'on veut. Et évidemment, après, dans le processus de travail, après, quand on est comédien, moi, j'ai tendance à ne... c'est très étrange parce que je ne respecte rien, puisque il faut pas trop respecter les ponctuations. Non. Et puis après, on revient à tout ça. Mais évidemment, après, on peut faire ce qu'on veut. C'est de toute façon, c'est un peu le but de pas trop tomber dans l'esclavage.
Non, c'est vrai, mais c'est intéressant justement ça, parce que c'est vrai qu'on a des types de langues complètement différents, donc c'est toujours le questionnement. Et c'est vrai que l'intérêt aussi, je ne sais pas, là je vous retourne la question toutes les deux, parce que vous traduisez beaucoup, mais c'est vrai que j'imagine, je ne sais pas comment ça se passe, mais j'imagine que quand vous traduisez, quand vous donnez la version à lire ou à interpréter, j'imagine que de temps en temps, vous-même, est-ce que vous changez un petit peu les choses, justement parce que sur le plateau...
La traduction théâtrale a une spécificité, c'est que le texte n'est pas autonome.
Oui.
Donc, on a toutes les deux une approche peut-être un peu différente, puisque Sarah a l'expérience du plateau, moi non. Sarah est comédienne. Donc, peut-être qu'il y a une étape qu'elle va passer.
Je le lis, le texte. Après l'avoir traduit, je le lis avec les respirations. Et effectivement, je fais des... change.
Forcément.
Alors moi aussi, je travaille à voix haute, d'ailleurs. C'est un problème parce que je ne peux absolument pas travailler en bibliothèque parce que tout le monde se retourne. La folle qui répète la même réplique pendant 4 heures et qui vraiment « Oh, c'est bon !» Donc, on a une spécificité, c'est que le texte, au contraire de la fiction, n'est pas autonome. Moi, je crois que le texte n'existe pas tout seul. Alors, évidemment, il y a des éditeurs, c'est très bien, il y a des versions papier. Mais nous, on fait un travail, mais on en a déjà parlé, c'est-à-dire que si on me commande un texte dramatique qui existera en papier, je vais avoir une version peut-être plus lissée, plus littéraire, et je vais faire attention à tout un tas de choses. En revanche, quand je travaille pour un metteur en scène, je sais que j'ai le droit de transgresser la langue française, j'ai plus de liberté, et nécessairement, je sais que ce que je donne va être repris. Il y aura un travail avec le metteur en scène, les comédiens, qui sont pas toujours faciles d'ailleurs, comme tu disais tout à l'heure.
Le rôle du comédien aussi, je crois qu'il soit bon élève.
Traduction théâtrale est spécifique en ceci qu'elle est... C'est un travail collaboratif, vraiment. Donc il n'y a pas de forme définitive. Le texte est perfectible.
Il est perfectible, mais... je pense que c'est très français, c'est qu'on a un rapport au texte qui est presque sacré.
Oui.
Et en tant que comédien, je pense que tu as dû le remarquer aussi, c'est que des metteurs en scène vont travailler sur un mot en disant oui. « Non, ça a été écrit comme ça, oui, ça a été fait comme ça, il faut respecter. » Et donc, il y a des metteurs en scène qui vont avoir le réflexe de revenir vers le traducteur pour perfectionner le texte, pour faire bouger le texte oui. et comprendre oui. qu'il y a une version imprimée qui est donnée, qui est là pour être lue, qui est bien là pour sûr. Faire connaître le texte, pour bien faire sûr. Entendre l'auteur, mais qu'après, cette version, elle peut complètement se modifier sur le plateau. Et ça, c'est vrai que ça dépend vraiment du metteur en scène, et c'est pour ça que c'est un jeu un peu dangereux
oui.
en France.
Mais c'est pas que en France, en fait, pardon. Juste pour dire, par exemple, nous, que j'ai joué, je me souviens, on avait modifié le texte, par exemple. Il y a toujours des modifications du texte. Donc, ça
oui,
rejoint
mais ça,
un peu ton
ça,
truc,
oui,
tu vois. Dès qu'on n'est pas dans les alexandrins, dans les vers à respecter,
oui.
etc., les rimes, on peut se permettre cette.
Oui, c'est moins sacré.
Il y a un rapport sacré au texte en France qui n'y a pas du tout en ex-Yougoslavie. En ex-Yougoslavie, c'est beaucoup plus commun de modifier le texte.
Oui,
de
c'est
prendre
vrai,
des
c'est
libertés
vrai.
Par
oui,
rapport au texte.
Vrai,
et l'auteur, en premier, va te le dire.
En fait, la particularité, c'est que l'auteur dramatique donne un matériau en ex-Yougoslavie. C'est-à-dire, il donne souvent, il nous envoie, nous les traducteurs, on reçoit parfois 150 feuillets. La pièce dure 4h30. Et en fait, non, ils nous le disent. Enfin, pour les coupes, allez-y. Ils donnent un matériau. Après, ça ne leur appartient plus.
Voilà.
Donc, ouais, ce qui n'est pas le cas, effectivement.
Ce qui n'est pas du tout
le cas
en France.
Oui, c'est pas du tout la même démarche, effectivement. Voilà.
Donc, on a souvent, nous, on travaille sur des textes qui effectivement sont très lourds, même les textes contemporains. On précise chaque fois. Ces textes, on va les couper. Oui, il y a 28 personnages, mais non, on va les couper. Il est allé au mec. Enfin, il a essayé d'élargir toutes les possibilités. Le metteur en scène fait ce qu'il veut, il a une liberté totale. Ce qui n'est pas le cas, effectivement, ici.
Oui, c'est plus
donc
compliqué.
Nous, on s'amuse parce qu'on traduit des,
oui. des encyclopédies.
Oui, des encyclopédies avez... qui, au final pour un spectacle qui durera.
Qui a 45 minutes.
Donc. Mais c'est vrai que...
Non, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, même le fait de la version, je dirais, imprimée, éditée, et de la version jouée, où finalement ça bouge, parce que c'est vrai que c'est comme tout, c'est de l'art vivant, et le texte, effectivement, a priori, devrait aussi être aussi vivant. Et d'ailleurs, même les comédiens, souvent, s'arrangent. Alors, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué quand c'est des textes formels comme voilà, dans le théâtre classique, Molière, Corneille. Voilà, c'est vrai qu'on bougera jamais ça. C'est vrai qu'on a moins ce... En France, c'est moins le cas, effectivement. C'est plutôt sacrilège de toucher au texte.
C'est
peut-être et,
parce
que, oui, parce et parfois, même la profession, les critiques s'indignent si tout à coup on enlève un personnage. Ou, effectivement, alors que c'est vrai que c'est un matériau qui continue à être vivant, qui bouge, quoi. Donc, finalement, c'est des états d'esprit complètement différents. Mm. Et ça mène vraiment sur le débat. Bon, est-ce qu'on peut, parfois, des pièces étrangères, vraiment les jouer ailleurs quels sont les ponts? C'est très intéressant de savoir ça. Donc, voir un petit peu... Pour nous, c'était une expérience très intéressante de voir comment les gens ressentent cet auteur, Nouchitch.
Dans les comédiens, vous avez... c'est des comédiens français ou vous avez...
Il y a de tout. Enfin, ils sont tous des comédiens français dans le sens où ils sont tous
en règle
aussi. Après, on a des gens dont les racines sont on a Sacha qui est serbe, Philippe et Pascal Ivancic qui ne parlent pas du tout la langue, ils sont français parce qu'en fait leur grand-père est arrivé, etc. Puis ne voulait plus parler, etc. Ainsi que leur père. Mais eux, ils sont donc croates et slovènes. On a une comédienne qui est donc qui est des origines ukrainiennes et polonaises. Une autre qui est bulgare. Voilà, la seule qui ait un accent en français, mais ça donne un charme. D'ailleurs, tout le monde pense que c'est la seule Yougoslave de la distribution. Donc ça, c'est très amusant. Elle s'appelle Antonia Malinova, et donc je lui ai dit qu'elle allait s'appeler Antonia Malinovic maintenant. Ouais. Comme ça, c'est plus pratique.
Ouais, c'est amusant.
Et puis, le reste de la distribution sont des Français.
D'accord.
Et c'est très intéressant parce que du coup, de jouer comme ça avec ces tempéraments et d'avoir aussi des comédiens français qui proposent un jeu... peut-être, j'allais dire, plus français aussi. Ça, ça donne une espèce de mélange qui alors, c'est très particulier parce que c'est très contrasté volontairement, là, pour le coup, dans la distribution. Après, bon, on arrive quand même à une homogénéité d'énergie, etc. Mais je trouve ça très intéressant d'avoir cette mosaïque comme ça de comédiens, parce que je trouve que ça amène une richesse aussi sur le plateau. Mais voilà, on a, enfin, l'idée, c'était vraiment... on aurait pu pousser plus loin encore, hein, on aurait pu prendre que des comédiens, Nandès, etc. Bon, là, il s'est trouvé que le projet était monté, je dirais... voilà, c'est fait un petit peu comme ça, mais moi, j'ai encore dans la tête le fait de pouvoir monter une pièce vraiment avec que des comédiens franco-yougoslaves, etc. Ça me trotte un peu. Alors peut-être pour une adaptation d'un roman. Enfin, je sais pas encore. Voilà. Je trouve ça amusant et ça permet aussi de fédérer, je dirais, aussi des comédiens comme ça qui sont comme moi de culture française et qui ont vraiment leurs racines. Voilà, ailleurs. Monsieur Petronievitch, vous avez des choses à rajouter ?
Non, mais ça revient vers la même chose. Et puis, cette histoire de traduction, je pense que c'est aussi, quelque part, nous, les artistes de théâtre de tous horizons, évidemment. Ce que vous faites, c'est admirable. Votre travail amené en France, les traductions, enfin traduire en France tous ces auteurs qui sont un peu comme ça éparpillés, qui vous envoient par milliers des pages, etc. Je pense que c'est un travail très très important parce que ça enrichit le répertoire, ça enrichit aussi l'art théâtral en général, puisque le spectateur aussi modifie ses sens et puis il reçoit autrement les pièces de théâtre. Et je pense que il faut encourager les gens à traduire les textes. C'est pas se mélanger coûte que coûte, mais surtout importer, exporter l'art de cette manière-là dès qu'on peut, puisque ça enrichit à la fois le répertoire, ça enrichit l'expression artistique, ça enrichit aussi les comédiens et aussi le public. Et je pense que
c'est
une voie qu'il faut moins. C'est la première fois, mais là je vais plus m'arrêter. Là, ça y est, je suis parti. Il y en a plein, mais c'est toujours bien de pouvoir proposer aux gens après la pièce se joue ou pas. L'idéal, ce serait de pouvoir traduire une pièce et puis la jouer aussitôt dans une production convenir, puisque c'était un travail énorme. Je pense que vous passez des heures et des heures à travailler.
On peut dire
textes.
Qu'on passe des mois et des
voilà.
mois.
Des mois, hein. Non, mais je dis des heures et des heures.
Dans l'isolement. Non,
c'est assez. Donc, il faudrait peut-être songer comme ça, se réunir ou essayer de se proposer des choses et dire comment faire.
Oui, mais
l'étape suivante, c'est comment faire en sorte que ce texte qui est quand même destiné à être quelque chose de vivant devienne vraiment vivant et le plus vite possible et ne pas garder ces gens qui œuvrent quand même pendant des mois pour
dans l'isolement.
Voilà, dans je pense que c'est ça qu'il faut aussi développer entre nous ou ailleurs voilà, et pouvoir produire les traductions et les auteurs proposés en tout cas au public tout en gardant.
Après, nous, pour, justement, pour la question de la diffusion de notre travail, on passe essentiellement par des comités dont on fait partie, qu'on coordonne bien souvent. Donc, pour l'espace ex-yougoslave, parce qu'on ne travaille pas seulement sur les Serbes. Moi, je travaille pour un Albanais maintenant, donc c'est tout nouveau. Et l'espace ex-yougoslave, on travaille essentiellement avec la MEO, la Maison d'Europe et d'Orient, et la Maison Antoine Vitesse.
Et la Maison Antoine Vitesse.
La Maison Antoine Vitesse, qui sont les partenaires.
Non, mais c'est important, c'est vrai que la diffusion, surtout quand on cherche, moi pendant longtemps j'ai cherché, alors évidemment j'ai été un peu regardé à la maison de...
Après il y a le troisième bureau qui a vraiment une banque de données énorme à savoir pour les gens qui s'intéressent à la traduction théâtrale et aux textes théâtraux de partout.
De partout, oui.
Le troisième bureau.
C'est vrai, ils ont plein de choses.
Oui.
De travaux de maîtrise. De...
Je voulais juste rebondir là-dessus, justement. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, les deux traductrices, d'être approchées en même temps par une troupe de théâtre et en même temps par un éditeur? Et dans ces cas-là, comment on fait par rapport à une pièce qui doit être traduite?
Alors,
je crois que ça n'est jamais arrivé.
Si, mais après...
Ah oui, pour Schneider. Ouais.
Pff, bon. Vraiment.
Oui, après, pour Schneider, tu étais d'abord, enfin, tu étais essentiellement.
Oui, il y a une version, version pour l'édition, qui n'a pas abouti d'ailleurs, et une version pour le rond-point, effectivement. Donc,
Ça n'a pas posé de problème particulier par rapport à votre travail ?
Bah non, parce que j'ai retravaillé après avec les comédiens. Donc.
Donc en fait, c'est systématique. Vous concevez le travail comme ça. C'est d'abord, on fait le texte, et si jamais il y a des comédiens, il faut retravailler.
Là, c'était un contexte un peu différent. C'est que je travaille aussi en binôme avec Mireille Robin. Donc là, quand je travaille avec Mireille, je travaille dans le sens. On travaille en priorité pour la version papier. C'est pas du tout la même approche. Alors que quand je suis toute seule, la version papier, moi, je n'y pense pas. Donc, je me lance dans le texte. Donc là, c'était un peu particulier. Donc, on a travaillé avec Mireille sur ce texte, qui est assez consistant, hein, je veux dire. Ça a été 3 mois de travail, 7 jours sur 7. Et lorsqu'il a été question de cette mise en espace au Théâtre du Rond-Point, là, elle m'a laissé les mains libres et j'ai retravaillé avec les comédiens. Voilà. Donc, effectivement, il y a deux... Mais bon, là, par exemple, je... Enfin, pour...
La majorité des textes que vous recevez, sinon, de l'ex-Yougoslavie, c'est des textes qui vous sont envoyés directement par les auteurs.
Alors, on a des auteurs attitrés. En fait, on peut le dire quand même. Wow, ça fait quand même pas mal d'années qu'on travaille. Donc on a Sarah travaille essentiellement pour plutôt pour Ivana Saïko maintenant et Nina Mitrovic quand même. Tandis que moi c'est plutôt Almir Imširević donc en Bosnie qui lui m'envoie régulièrement ses textes et qui m'envoie aussi alors quand il me demande de l'aider dans ses recherches parfois aussi lorsqu'il commence un nouveau texte. Donc J'ai des brouillons, j'ai tout, j'ai des notes.
Après, on est aussi contacté par d'autres auteurs où il y a des metteurs en scène aussi qui nous envoient des textes d'auteurs en disant cet auteur est intéressant, jette un coup d'œil. Enfin voilà. Donc,
alors il y a aussi des choses.
Il y a des théâtres aussi qui envoient des textes.
Il y a des choses en suspens. Enfin parfois, moi il m'arrive de recevoir des textes et de ne traduire qu'une dizaine de pages. Extrait, j'essaye de le placer avant de me lancer dans un travail qui, de toute façon...
Très empirique, quand même.
On n'arrive pas toujours à placer nos textes. Ouais. Donc,
S'il y a des gens qui veulent réagir...
Monsieur Loury. Nous avons suivi les cours de Monsieur Loury il y a quelques années.
Alors, j'aimerais savoir si une stratégie de traduction pour un auteur comme Nusic ne consisterait pas à chercher dans le répertoire français quelqu'un d'à peu près équivalent. Et est-ce que Courteline ne serait pas inspirant pour une traduction française de Nusic ?
Il y a eu ça, oui. Il y a eu ce travail-là. Une recherche de pendant, mais c'est toujours difficile de se coller à un auteur puisque le langage n'est pas forcément le même. Courteline, oui, peut-être. On peut aussi se demander si la biche parfois n'est... Voilà, tout ça est assez bizarre. Et puis en même temps, on se dit, je vais aller chercher quand même dans les auteurs des années 30. Et puis je suis allé même vers l'écriture de Monterland, parce que je me suis dit, je vais essayer de voir ce qu'il a inventé lui, pour me dire, ouais, allez, je vais voir le style. Et puis finalement, non. Je pense qu'il faut essayer de se dire, voilà, ce style-là, il est à peu près comme ça. Après, évidemment, il y a du pour et du contre. Mais le détourner vers Courteline en se disant que c'est Courteline et pas autre chose, moi j'ai assez vite abandonné ce travail là parce que ça me menait un peu partout et je me suis dit si je commence à faire ça il y a 3 ans de travail vraiment une thèse à faire là-dessus, est-ce que son langage est proche du langage de Courteline ou de Labiche ou de Feydeau aussi.
Mais finalement, voilà, il est ce qu'il est là, tel qu'il est traduit, assez... je dirais que c'est une traduction assez, assez brute par rapport au langage de Nušić, puisque les phrases sont assez, correspondent assez à ce que se dit en serbe.
Je vous propose qu'on s'arrête là, puisqu'il faut qu'on libère absolument la troupe qui doit aller jouer tout à l'heure. Donc en tout cas, merci beaucoup d'être venu à cette rencontre. Et je vous signale que notre prochaine manifestation a lieu le mardi 17 décembre. C'est plus autour de la traduction, mais autour d'un dialogue entre la géographie et la littérature avec Michel Collot, qui est donc professeur de littérature française à la Sorbonne Nouvelle, et Christian Grataloup, qui est professeur de géographie à Paris Diderot. Voilà. Merci, à bientôt.
Merci.
Merci.
Merci à vous.
Merci. Merci beaucoup.